La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Salut, bienvenue sur la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui c'est le premier jour du printemps, non, si je me trompe pas. Ou alors, est-ce que c'était hier? Je sais plus, mais alors, tout d'abord, à toutes et à tous, félicitations. Déjà, je vais t'applaudir, toi, auditrice, auditeur, bravo. Est-ce qu'on peut applaudir nos auditeurs, s'il vous plaît?
Bravo.
Bravo, bravo. Bravo à toi, auditrice, à toi, auditeur, parce que t'as survécu à l'hiver. Et ouais, on l'avait annoncé rude et long, difficile. Et finalement, c'est derrière nous. Et franchement, je vais le dire maintenant, ça va. Le meilleur est à venir, là. Soleil, température agréable, moucheron dans les rues que tu vas avaler, pollen, tout ça, franchement. Non, mais en vrai, ça m'a fait plaisir de voir des gens dans la rue aujourd'hui en t-shirt, sans veste, habillés d'un sourire parce qu'il fait beau et bon. Vous voyez les Parisiens, vous êtes capables de sourire. Le pire, c'est que le mois dernier, le mois de février, c'est le mois le plus court, mais c'est clairement le mois de la dépression. Donc, très chère auditrice, auditeur adoré, personnellement, je vais profiter de ton sourire qui s'affiche avec les beaux jours et les températures qui grimpent, avant que celui-ci ne disparaisse à nouveau quand les Jeux Olympiques vont commencer et que ton corps moite sera compressé entre l'aisselle d'un touriste islandais et la porte crade du métro de la ligne 13. Chère auditrice, chère auditeur, vous êtes les bienvenus sur le 93.9 FM. Sur Radio Campus Paris. Alors aujourd'hui, on démarre l'émission de ce soir en recevant Virginie Sasson, directrice.
Non, je crois.
Ouais, aujourd'hui au programme, on aura tout d'abord Virginie Sasson, donc directrice adjointe du CLEMI, qui sera interviewée par José-Louis Gibault et qui viendra nous parler de la 35e édition de la semaine de la presse et des médias qui ont lieu depuis le 18 mars et jusqu'au 23. Ensuite, on laissera place à une chronique de Anne-Sophie avant de passer au Zoom, pendant lequel Sofiane Collier recevra Sarah-El Vitral, qui nous présentera la première édition du Urban Festival. Et enfin, on conclura l'émission sur une chronique humoristique de Gauthier. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris, c'est maintenant.
La matinale de 19h.
Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons parler de la 35e édition de la Semaine de la Presse et des Médias dans les Écoles, une initiative du gouvernement exécutée par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui a démarré ce mardi 18 mars, et se terminera samedi 23 mars. Cette semaine est une occasion unique pour les élèves de la maternelle jusqu'au lycée de comprendre et de décrypter l'univers des médias, d'apprendre à vérifier les sources et les informations, de développer leur goût pour l'actualité et de se forger leur identité de citoyen. Les thèmes de cette année est l'info sur tous les fronts. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour nos jeunes? Pour en discuter, nous recevons Virginie Sasson, directrice adjointe du CLEMI, qui va nous en dire un peu plus sur cette semaine dédiée à nos très chers médias. Bonjour Virginie, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, tout à fait, je vous entends.
Génial.
Et j'espère que vous m'entendez aussi.
On vous entend très bien.
Super.
Par contre, je crois que votre téléphone est allumé et on entend les vibrations. Non, c'est bon?
Okay. Est-ce que là, ça va?
Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais vous poser la première question. Comment la semaine de la presse et des médias dans l'école peut-elle aider les jeunes à naviguer dans cet univers médiatique passionnant, mais parfois déroutant?
C'est un événement qui permet dans l'année pour les élèves d'accueillir des journalistes, de les rencontrer. Et puis les médias proposent tout un tas d'activités comme des ateliers pour apprendre à faire des reportages, pour découvrir les coulisses de la fabrication de l'information. Donc c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour les enseignants, les élèves et les journalistes de se rencontrer et puis de découvrir à quel point c'est important pour apprendre à s'informer, de comprendre comment fonctionnent les médias et tous les différents médias, parce qu'on parle beaucoup des journalistes, mais en fait, les élèves sont souvent aussi fascinés, par exemple, dans une télévision, de découvrir aussi tous les métiers techniques qu'il y a aussi derrière le son et l'image.
Et plus précisément, quels sont les grands enjeux, les objectifs principaux de cet événement?
Alors les grands enjeux, ce sont ceux de l'éducation média à l'information. On pourrait dire c'est apprendre à distinguer une information d'une opinion, une croyance d'un fait. C'est vraiment acquérir des réflexes. Enfin là, je vous parle des enjeux citoyens, de l'éducation média à l'information. C'est s'informer aujourd'hui sur les réseaux sociaux en ligne. Ça s'apprend. C'est pas inné. C'est pas parce qu'on est avec un téléphone entre les mains que on est naturellement compétent avec les outils numériques. Donc c'est apprendre à avoir des réflexes face à l'information et puis développer son esprit critique aussi, puisqu'aujourd'hui l'écrasante majorité des adolescents s'informent via les réseaux sociaux, donc ça pose tout un tas de problèmes aussi pour savoir reconnaître les sources qui sont fiables, celles dont on doit se méfier, et puis c'est souvent beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, parce que quand on dit démêler le vrai du faux, bien souvent ils sont bien entremêlés. Donc c'est prendre le temps de réfléchir à tout ça pour être capable de faire des choix, parce que être bien informé aujourd'hui, ça n'a jamais peut-être été aussi difficile, mais aussi important.
Vous parliez de vérifier ses sources, comment on fait concrètement quand on a 12 ans, 13 ans, qu'on va que sur les réseaux? Comment on fait pour vérifier ses sources?
Alors pour vérifier ces sources, c'est apprendre à les vérifier. Bon, déjà, les enseignants, par exemple, proposent à des élèves de cet âge-là d'évaluer la fiabilité d'un certain nombre de sources. Et puis, le rôle des enseignants, c'est aussi de faire découvrir aux élèves tout ce qui existe. Et puis, la semaine de la presse, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de titres de presse qui sont acheminés par la poste dans les établissements scolaires. Donc, ils découvrent aussi des médias et en l'occurrence, des sources d'informations qu'ils n'auraient pas découvert sans cet événement-là. Et ils découvrent aussi, mais alors ils peuvent les découvrir évidemment en format papier, avec un journal, un magazine, mais ils peuvent aussi les découvrir en ligne. Donc l'idée, c'est aussi de se confronter, d'évaluer, d'apprendre à saisir les informations qui comptent aussi. Toujours se poser la question de, en fait, qui me parle? Quelle est l'intention de l'émetteur? Parce que aller prendre le temps d'aller voir dans la rubrique à propos du site, d'aller enquêter en fait un peu et avoir des réflexes. Quand on voit que le titre est un peu trop spectaculaire ou que le contenu est surtout axé sur l'émotion pour faire du like et du partage, l'idée c'est d'acquérir ces réflexes, un peu de se méfier de ce genre de contenu.
Alors effectivement, on a cette première approche, mais de l'autre côté, on a aussi beaucoup de désinformation et de fausses nouvelles. Comment cet événement, cette semaine, éduque les jeunes à ça?
Eh bien, c'est vrai qu'avant de s'intéresser à la désinformation, il faut s'intéresser à l'information. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont très conscients qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de fake news. Surtout, on en a beaucoup parlé avec toute l'émergence aussi des intelligences artificielles génératives. Donc, c'est des débats quand même qu'ils entendent et ils sont assez méfiants et beaucoup plus méfiants que ce qu'on peut croire. En revanche, ils ne savent pas trop à qui non plus accorder leur confiance. Donc, l'enjeu d'apprendre l'information, c'est la première étape avant la désinformation. Et en fait, quoi de mieux que d'aller visiter un média ou de rencontrer un journaliste qui va raconter son métier, ses contraintes aussi. Et souvent, les jeunes peuvent avoir des stéréotypes ou des idées reçues aussi sur ce que c'est que le métier de journaliste. Et puis quand ils prennent le temps de poser des questions, de découvrir en quoi ça consiste à partir du moment où il y a un événement, comment on va aller traiter cet événement, comment vraiment l'information se fabrique et se traite et toute la diversité aussi, puisque vous êtes journaliste en presse quotidienne régionale, c'est pas la même réalité que quand vous travaillez sur une grande antenne de télévision nationale ou encore, la diversité en fait de toutes les réalités du métier de journaliste. Et c'est quand ils apprennent vraiment à s'informer en rencontrant aussi des journalistes. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que l'éducation média à l'info, c'est vraiment aussi produire. Donc les élèves, à cette occasion-là, peuvent aussi produire des contenus, que ce soit des contenus radio, des contenus vidéo ou écrits. Et quand ils deviennent acteurs de leur propre contenu et qu'ils apprennent à informer, et à publier aussi, et bien là, ils deviennent aussi beaucoup plus critiques aussi et beaucoup plus, je dirais, éveillés et vigilants sur après ce qu'ils lisent et ce qu'ils consomment en ligne ou ailleurs.
Et cette information, c'est un droit ou un devoir pour un citoyen ?
Je dirais que c'est les deux. L'information, on peut la considérer comme un bien commun. De pouvoir accéder à une information de qualité, c'est un bien commun en démocratie. Et c'est aussi un devoir, en quelque sorte, aujourd'hui, un devoir citoyen qui relève de notre responsabilité, d'être vigilant, surtout à ce qu'on partage, à ce qu'on like, à ce qu'on propage. Et il y a cette notion aussi de responsabilité individuelle et puis collective, parce que quand les médias, par exemple, font des erreurs, c'est important de pouvoir les reconnaître, pouvoir alerter aussi les lectorats sur le fait qu'il y a parfois des erreurs et que des processus aussi d'emballement médiatique qui peuvent conduire à faire des fautes. Mais je dirais que oui, il faut envisager l'information comme un bien commun et l'accès à l'information comme un droit humain pour un citoyen en démocratie. Mais il y a aussi derrière ce droit des responsabilités, des devoirs de savoir être citoyen aussi en ligne, quoi. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté numérique aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se comporte bien dans la rue et qu'après on insulte les gens ou on propage des choses qui peuvent être néfastes. Que ce soit parce que ça relève des discours de haine ou parce que ça charrie aussi un certain nombre d'éléments toxiques. Donc il faut être vigilant à la manière dont on se comporte aussi en tant que citoyen en ligne.
Effectivement, dans certains pays, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de droit.
Oui, tout à fait. Et puis, il n'y a pas de presse libre. Et puis il n'y a pas de diversité de la presse donc je pense que l'intérêt aussi de la semaine de la presse et des médias dans l'école pour les élèves aussi, c'est de découvrir qu'on est quand même dans un pays où, par exemple, sur la presse jeunesse, il y a plein de titres de presse différents qui peuvent s'informer de plein de manières différentes, que la presse écrite est aussi diverse, qu'il y a beaucoup de médias différents avec des lignes éditoriales différentes. Ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours très claires pour eux, donc de pouvoir découvrir, explorer cette diversité, ce pluralisme, c'est très important.
Comme vous le disiez, il y a une profusion de sources, de médias. Alors justement, à l'ère des médias numériques, des réseaux sociaux, est-ce que c'est encore pertinent de faire une semaine de la presse et des médias et comment justement cet événement a évolué au fil des ans?
Oui, c'est vrai qu'il y a la 35e édition, que Clémy a 40 ans, donc on se dit qu'il y a des choses qui ont évidemment été complètement bouleversées ces derniers temps. Et quand Jacques Gonnet, qui est universitaire, a créé le Clémy il y a 40 ans, avec cette idée de dire que les médias, apprendre et comprendre les médias, c'était comme une alphabétisation citoyenne. Je pense qu'il a son intuition, elle est toujours valable 40 ans après. Sauf que oui, effectivement, les médias ont changé. Et ce que je trouve, moi, particulièrement intéressant, c'est qu'effectivement, les enfants, les adolescents n'ont plus accès à la presse écrite. Et quand ils découvrent, justement, grâce à la semaine de la presse, le format papier d'un journal, ils découvrent aussi qu'est-ce que ça veut dire que d'organiser un journal, de choisir une une, de choisir de mettre en avant tel ou tel élément. Ils découvrent des contenus aussi et des différents types de l'édito, le point de vue d'un tel ou un tel, le reportage, les brèves, enfin toute la diversité en fait des formats journalistiques. Et puis ils vont aussi découvrir que un journal, bah, il raconte une histoire au fil de ses pages. C'est pas une narration auquel ils ont forcément accès quand ils s'informent en ligne, parce que quand on s'informe via les réseaux sociaux, finalement on s'informe un peu par accident, et puis c'est les algorithmes finalement qui nous poussent des contenus, c'est l'éditorialisation algorithmique finalement qui fait le job quelque part une forme d'éditorialisation où on n'a pas forcément accès à l'ensemble de la ligne éditoriale d'un magazine, et puis on accède par les contenus plus que par l'ensemble de l'univers du média en question. Donc c'est une expérience qui les ouvre et qui amène à une curiosité aussi.
Alors peut-être une dernière question juste avant de lancer la pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est sur tous les fronts et comment vous faites pour choisir le thème de l'édition ?
Alors, le thème de l'édition, il est choisi par tous les partenaires de la Semaine de la Presse qui se regroupent en comité de pilotage, et puis avec les équipes du CLEMI qui font aussi des propositions. Et le thème dure 2 ans, et cette année, on a choisi, c'est la deuxième année, donc sur tous les fronts, parce que l'actualité récente a été beaucoup marquée par... la guerre, donc qu'est-ce que c'est que d'être journaliste aussi en temps de guerre, notamment en Ukraine. Il y a 2 ans, ça a été très, très, très marquant pour tout le monde. Et puis les fronts aussi des défis écologiques, donc comment informer sur ces défis, sur la nécessaire transition écologique, comment aussi informer à l'heure des intelligences artificielles génératives. Donc c'est tous ces fronts-là auxquels sont confrontés les journalistes aujourd'hui qu'on a voulu aborder.
Alors on va reprendre l'interview tout de suite, mais d'abord on va faire une petite pause musicale avec Until May de Jaji. C'était Until May de Jaji. Vous êtes sur la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
On reprend donc notre interview avec Virginie Sassoon.
Bonjour, rebonjour Virginie, nous sommes toujours sur Radio Campus Paris pour discuter de la 35e édition de la semaine de la presse et des médias de l'école qui se tient en ce moment même, qui a commencé le 18 et finira le 23 mars. Alors, selon une étude récente de The Bon Collectif, une agence média Gen Z, qui a pour mission de connecter les marques aux jeunes urbains à travers leur passion, les 18-34 ans cumulent en moyenne 10 passions et éprouvent un désintérêt prononcé pour la presse et les médias généralistes classiques. Ces passions sont essentielles à leur équilibre et se classent dans le top des éléments qui contribuent à leur épanouissement personnel. Alors ma question, c'est comment ces passions influent-elles la façon dont les jeunes consomment et interagissent avec les médias, et comment les éducateurs peuvent-ils utiliser ces informations pour mieux engager les jeunes dans leur salle de classe?
Alors les passions, comment elles influent sur la manière dont les jeunes s'informent? C'est-à-dire qu'ils vont aller vers des producteurs de contenu ou vers des médias ou des influenceurs, influenceuses qui parlent de leur passion. Je ne suis pas certaine pour faire une veille assez précise et continue sur les pratiques informationnelles des jeunes, que les jeunes se désintéressent de l'actualité. En revanche, ils ne se sentent pas concernés par l'actualité telle qu'elle est racontée et retranscrite par des médias qu'on dit grand public et qui vont s'intéresser à des sujets qui ne les interpellent pas forcément directement. Après, ça me gêne aussi un petit peu de parler des jeunes parce qu'en fait, la jeunesse, elle est plurielle selon qu'on vit encore chez ses parents, selon qu'on vit en ville, à la campagne, dans une banlieue, selon son milieu socioculturel. En fait, les choses vont être très, très variables et on manque souvent de nuances. Mais bon, comme on est quand même obligé d'en parler, mais je voulais quand même émettre ces deux petites réserves parce qu'on a forcément tendance dans les discours aussi à un petit peu généraliser. Et ce que je trouve très intéressant, par exemple, avec les podcasts, c'est de pouvoir... aussi, il y a une offre en podcast qui est assez extraordinaire et qui permet d'adresser une offre médiatique à une audience qui avec des appétits très très divers et les éducateurs aujourd'hui pour connecter les jeunes à l'actualité, à leur centre d'intérêt. Je trouve qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour créer ses propres contenus. Donc, c'est une époque, de ce point de vue-là, l'époque dans laquelle on est, qui est assez réjouissante parce qu'avec un smartphone, vous pouvez faire un film, vous pouvez faire du montage, vous pouvez faire un petit reportage, vous pouvez faire des photos magnifiques, vous pouvez documenter le monde si vous avez une intention, si vous avez un projet qui est très accessible à tous. Les éducateurs aujourd'hui, avec le numérique, avec le potentiel qu'offre le numérique, ont ces outils-là qui sont des vrais, si on sait s'en servir, qui sont des vrais leviers de créativité et de production et d'ouverture à l'autre.
Vous parliez de diversité, mais est-ce que y a aussi ce côté inclusion et de représentation de tous les types de médias qui est assuré par cette semaine?
Oui, il y a vraiment tous les types de médias, de la presse quotidienne, régionale, des médias publics, des médias privés, des médias qui sont sur des sujets de... par exemple, de presse professionnelle. Vraiment, il n'y a qu'une seule limite, je dirais. C'est des médias qui sont dans des engagements religieux parce qu'ils ne respectent pas forcément les principes de la laïcité. Donc là, ça va être une limite. Ou des médias qui pourraient être extrêmement radicaux. On respecte, disons, une ligne du pluralisme de l'information pour essayer justement de faire découvrir. Je pense que c'est tout l'intérêt, parce que c'est tout l'intérêt de la semaine de la presse, c'est de faire découvrir justement la diversité des médias qui existent dans notre pays.
Alors, nous arrivons à la fin de la semaine des médias. Alors, on va parler...
Mais la semaine dure bien plus qu'une semaine. La semaine de la presse dure un mois. Ça, c'est un scoop.
Chers auditeurs tristes, vous avez encore le temps.
Ouais. En fait, c'est une fake news, la semaine de la presse et des médias. Vous voyez, en fait, elle dure beaucoup plus longtemps parce qu'une semaine, c'est trop court aussi, à la fois pour les médias, pour les enseignants, pour tout de pouvoir. Donc souvent, ça déborde et voilà. Et c'est pour ça que ça va continuer même la semaine prochaine et après.
Alors justement, quels sont les retours que vous avez des enseignants, des élèves? Quels sont les KPIs, les indicateurs clés et les chiffres que vous pouvez recueillir?
En fait, là, on a des retours, une très forte mobilisation. On a 4 700 000 élèves qui participent. Il y a eu 1800 partenariats tout au long de cet événement. Donc, pour vous dire, 290 000 enseignants qui sont mobilisés. Donc, c'est une action éducative du ministère de l'Éducation nationale qui est majeure. Et le fait de créer ce lien entre le monde des médias et le monde de l'école, je pense qu'il est, vraiment toujours aussi, suscite toujours autant d'intérêt, voire encore plus d'intérêt, puisque on a cette conscience. À quel point aujourd'hui l'information, comme on le disait tout à l'heure, est un bien précieux, et que si on est bien informé, on a aussi tous les outils pour faire des choix éclairés. Et les retours des enseignants, ils sont enthousiastes, et puis surtout ils sont reconnaissants aussi de l'implication des professionnels des médias à leur côté, et les professionnels des médias qui s'impliquent dans la semaine de la presse sont aussi reconnaissants pour tout le travail qui est mené tout au long de l'année par les enseignants. Donc c'est des rencontres qui sont très riches et porteuses de sens. Et j'ai aussi envie de dire que la semaine, ça ne s'arrête pas à une semaine, parce que c'est l'éducation aux médias, à l'information, c'est toute l'année, c'est les classes médias qui sont sur des temps hebdomadaires, 2 heures, 4 heures par semaine, et qui peuvent aussi vraiment changer la donne. Parce que c'est génial de faire un atelier, de faire une rencontre, de faire une visite média. C'est vraiment un temps qui peut déclencher beaucoup d'intérêt, de curiosité, de connaissances. Mais l'éducation média à l'information, ça doit quand même être fait toute l'année pour porter ses fruits. Et ça nécessite un temps long.
Donc une efficacité sur une semaine, mais qui dure et qui perdure.
Oui, ça doit durer.
Ouais. Vous parliez de vos partenaires. Est-ce que vous pouvez me donner quelques noms? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on monte ce type de partenariat? Je pense aussi au Dromcom. Qu'est-ce qui est fait dans ces territoires?
Par exemple, les journalistes de la chaîne Gulli et M6 ont travaillé avec des collégiens de la région parisienne, et donc ils ont été en classe, ils ont demandé aux collégiens de choisir les sujets qui les intéressaient, donc ils parlent vraiment des sujets qui intéressent les élèves. Là, en l'occurrence, c'était des sujets sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, les élèves ont décidé de faire des portraits de sportifs, et donc ils ont été accompagnés par les professionnels de ces médias pour réaliser les reportages, faire les interviews. C'est comme une espèce de formation. Et après, les reportages ont été diffusés sur l'antenne. Donc, c'est très gratifiant aussi pour les élèves de voir leur travail diffusé à l'antenne. Ça, c'est un exemple. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Il y a par exemple La Voix du Nord, qui est un journal, comme son nom l'indique, qui est dans le Nord, qui a créé un média qui s'appelle Ta Voix, qui est pour les adolescents jusqu'à l'âge de 17 ans, et là, qui ouvre vraiment ces locaux, ces colonnes à la parole des jeunes et qui relaient aussi cette expression de la jeunesse. Dans les territoires, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, les médias aussi se mobilisent, même si la presse écrite connaît une crise. Elle est en crise partout, mais connaît une crise qui qui est importante. Mais malgré tout, les médias locaux, notamment les médias de services publics, se mobilisent et il y a aussi beaucoup d'actions qui sont menées là-bas, et puis des colis presse aussi qui sont envoyés. Donc les élèves aussi peuvent découvrir et expérimenter un certain nombre d'activités pendant cette semaine.
Eh bien, merci beaucoup Virginie et merci à toi Jean-Louis d'avoir mené
merci
cette interview.
Merci Virginie.
Excuse-moi. Avant de continuer cette matinale de 19h avec la chronique de Anne-Sophie, on passe à notre deuxième pause musicale avec Salt. Why? C'est le titre de Salt que vous venez d'entendre et vous êtes toujours sur la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, on passe à la chronique de Anne-Sophie Herzner.
C'est carré. Il y a une date d'expiration. C'est destiné aux Français et aux touristes. C'est pour les chiots. Et ça cherche un nouveau visuel. Vous avez bien entendu, je parle des préservatifs de la ville de Paris. La ville en distribue chaque année 150 000. Depuis 2016, la phrase « Faire de Paris la ville de l'amour sans sida » orne les pochettes de ces préservatifs. Mais bientôt, la pochette change. Jusqu'au 4 avril, la ville de Paris lance un concours pour trouver un nouveau visuel, avec un message assez clair sur le consentement. Bah oui, le préservatif est aussi un message. Pensez-les bien. Pour l'ouvrir, nous devons le prendre dans nos mains. Il peut nous faire rire avec une blague drôle et nous laisser un message. Certes, jusqu'au présent, le préservatif devait surtout nous rappeler les maladies sexuellement transmissibles pour des bonnes raisons. Depuis la Covid, le nombre de maladies sexuellement transmissibles augmente partout en Europe. Mais il peut y avoir un deuxième message. Cet été, des gens du monde entier afflueront à Paris pour les chiots. Lors de tels événements festifs, il y a malheureusement souvent une augmentation des agressions sexuelles. Autant plus important devient alors le savoir sur le consentement. Donc l'accord qu'une personne donne pour participer à une activité sexuelle, soit verbale, soit non-verbale. C'est alors un concours qui devrait nous faire réfléchir sans nous gâcher l'ambiance. Soyez créatives. Vous trouverez plus d'informations sur le concours sur le site d'internet de la ville de Paris.
Merci Anne-Sophie pour ta chronique. On passe tout de suite au Zoom de la matinale de 19h.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et pour notre Zoom, on reçoit maintenant Sarah Elvétral qui est chargée de la programmation du Urban Festival. Et pour mener le Zoom, Sofiane Colli.
Merci. Comment ça va tout le monde?
Ça va.
Ça va. Donc ce soir, comme tu viens de le dire, Justine, on reçoit Sarah, chargée de programmation du festival URBN. C'est un festival donc de hip-hop par les étudiants et pour les étudiants, qui est en place depuis 2022.
Exactement.
Donc depuis 2022, pardon, j'ai pu lire que c'est plus d'une centaine de spectateurs et spectatrices, des découvertes artistiques aussi tout au long du programme et du festival, des danseurs et des danseuses qui viennent les uns et les unes après les autres. Mais dans le fond, en fait, qu'est-ce que c'est le festival URBN ?
URBN, c'est un festival qui se veut être le premier festival hip-hop inter-universitaire. Donc, qui rassemble des étudiants de diverses universités pour l'instant parisiennes autour du hip-hop et de toutes ces disciplines, donc que ça soit la danse, la musique, le graffiti, tout autour de la culture hip-hop, se retrouver, partager, monter sur scène, découvrir des talents et passer de bons moments.
Carrément. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que genre la première version du festival en 2022 s'est créée?
Le festival, l'idée même du festival est née même un peu plus tôt.
Ouais.
Elle est née en 2020, on voulait faire la première édition en 2020, mais Covid est arrivé à gâcher nos plans.
Ouais, comme plein de choses.
Donc voilà. Donc finalement, elle s'est faite en 2022 avec une façon un peu beaucoup plus grande que ce qu'on avait pensé faire en 2020, notamment grâce à des partenariats qu'on n'aurait jamais pensé pu avoir sans le Covid. Je pense notamment à un partenariat avec le Centre culturel de Taïwan.
Oui.
Qui nous a permis de faire voyager des étudiants qui ont gagné notre battle de danse à Taïwan.
Incroyable. Donc c'est ça en fait, si on participe donc au festival, on peut gagner des prix comme jusqu'à
gagner des voyages, gagner des accompagnements professionnels pendant un an.
Incroyable.
Etc.
Bah, à vrai dire, on reviendra un petit peu sur ça. Qu'est-ce qui a évolué depuis le premier festival pardon en 2022?
Alors, le premier festival, il était sur 3 jours.
Okay.
On avait vraiment surtout un battle de danse et un open mic, donc pour faire les étudiants monter sur scène.
Mm-hmm.
Et maintenant, on est sur toute une semaine depuis l'année dernière, avec dans des universités, plusieurs ateliers gratuits d'initiation aux différentes disciplines du hip-hop, que ce soit du beatbox, du beatmaking, du graffiti, de la danse, même l'écriture, le rap, etc.
Ouais.
Et on a également un concert avec des artistes professionnels où on permet aux étudiants d'assister à ce concert à un prix étudiant du coup.
Ok, donc en fait c'est ça, tout le monde peut venir à ce festival finalement, qu'on soit débutant, amateur, confirmé, etc.
C'est ça, c'est la rencontre de tous ces acteurs-là ensemble.
Et en plus pour rappel aussi, le festival est gratuit.
Il est gratuit, on dit toujours à 99%, parce que le concert du coup est payant, même s'il a pris étudiant, il est payant.
C'est
mais tout le reste de la programmation est gratuite.
Incroyable. Et du coup, tu l'as dit, c'est sur une semaine, et c'est ça, donc du 25 mars au 29 mars.
Oui, et cette année même du 25 au 31 mars.
Au 31, c'est
on
vrai.
On finit le dimanche, voilà, toute la semaine.
C'est ça, parce qu'en gros, j'avais vu que du 25 au 29, c'était sur des campus d'université parisienne. Ça sera sur lesquels campus ?
Alors, on est cette année en partenariat avec 5 campus.
Ouais.
On a la Sorbonne Nouvelle, qui est à Nation. On a Dauphine, Paris-Nanterre, Ville-Tanneuse et Saint-Denis.
Et Saint-Denis, ok. Et est-ce que du coup, ça sera genre tous les jours sur les 5 campus en même temps ?
Donc, pas tout le temps partout, mais on sera sur ces 5 campus et à chaque fois, les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous pouvez les retrouver sur nos réseaux URBN Festival pour découvrir quels sont les ateliers qui sont sur vos campus et à quelle heure ils sont.
Ok, oui, carrément. Genre tout est écrit sur Internet, Insta, etc.
C'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire pour pouvoir y accéder.
Ok, carrément. Aussi, j'ai vu que du coup, ce festival URBN, c'était le fruit d'une association qui s'appelle Alternative Culture. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette association précisément ? Comment est-ce qu'elle est née et comment est-ce qu'elle a créé ce festival en fait ?
Alternative Culture est née justement d'une expérience de festival.
Ok.
Par moi-même et deux copines que j'avais rencontrées quand on était en licence.
Okay.
À la Sorbonne Nouvelle, on faisait une licence médiation culturelle et on voulait toutes travailler dans la culture. Et dans le cadre de notre licence, il fallait monter un festival fictif, normalement.
Ouais.
Mais on avait tellement travaillé le projet qu'on s'est dit pourquoi pas le faire réellement.
Bah carrément.
On l'avait fait comme ça sur une journée juste sur notre petit campus, un mini festival.
Ouais.
Mais on s'est bien entendu dessus et puis... plus tard, après, on a chacun fait nos parcours en master ou autre. Et on s'est dit, on a envie de se retrouver. C'est quelque chose qui nous avait marqué. Et maintenant qu'on était un peu dans le monde professionnel, on voyait que il fallait quand même... c'était difficile d'avoir de l'expérience professionnelle en fait, dans la culture si on n'avait pas fait d'autres choses avant, si on n'avait fait que les études. Et on s'est dit, on va monter notre propre asso et se faire notre propre expérience. Et du coup, voilà, on monte nos propres événements maintenant.
Carrément.
Mais on fait aussi du conseil pour soit des porteurs de projets, jeunes porteurs de projets culturels. Et on forme aussi d'autres étudiants de la culture qui étaient un peu dans le même rôle que nous il y a quelques temps.
Carrément. Enfin, carré, super. Et donc, c'est un festival de hip-hop, bien entendu, on l'a dit déjà plusieurs fois. Pourquoi le hip-hop et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le hip-hop ?
Alors pourquoi le hip-hop ? Parce que c'était l'une des cultures sur lesquelles on se retrouvait toutes parmi les fondatrices, à différents niveaux. Moi par exemple c'était surtout la danse parce que je suis danseuse, danseuse hip-hop, mais il y en a où c'était plus la musique, soit juste écouter, il y en a qui écrivent. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés autour de cette culture-là.
Est-ce que vous performez aussi pendant les festivals ?
Là on est trop occupés pour quand on organise, bien. On est vraiment bien. Et donc c'est pour ça. Et puis le hip-hop, lui, c'est un moyen d'expression. En tout cas, on l'utilise comme un moyen d'expression et de rencontre dans ce cadre-là.
Ouais, c'est clair. Et du coup, j'avais vu, donc, comme on l'a dit, donc, du 25 au 29 sur les campus d'université que tu viens de citer, les 5. Et du 29 au 31, donc le week-end, c'est dans des institutions partenaires. C'est
exactement
ce que j'ai lu. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces institutions partenaires ?
Oui. Alors le 29, donc vendredi 29 mars, on sera au Petit Bain.
Okay.
Une péniche, on est sur les quais pour un concert. Un concert de rap avec Do, vous le connaissez peut-être, il a fait Nouvelle École, une émission, Implacable, Luni et d'autres artistes. On a le samedi, on se retrouve au Point Éphémère, toujours dans Paris. Et là, c'est plus pour un open mic, c'est gratuit, c'est un événement gratuit, ouvert à tous. Puis après, ça part en soirée avec un DJ set.
Jusqu'à quelle heure ?
Jusqu'à 3h du mat.
Ok, stylé.
Donc on va bien kiffer.
Ouais.
Puis le dimanche, on est à Saint-Denis cette fois-ci, dans un lieu qui s'appelle le 6B.
Okay.
C'est un super lieu, un tiers-lieu un peu culturel, qui est super, qui nous accueille pour cet événement.
Et c'est des lieux partenaires que vous avez depuis la première édition ou ça s'est fait petit à petit comme ça ?
Pas tous. Le point éphémère, pour le coup, c'est ils nous ont suivis dès le début.
Ouais.
Et les deux autres salles, c'est la première année qu'on travaille
avec
eux. Ok,
donc grosse découverte aussi pour le festival, quoi.
C'est ça.
Trop cool. Et donc, on l'a dit déjà avant, tout le monde peut venir, c'est gratuit à 99%, comme tu l'as dit. Mais comment est-ce qu'on participe à la dance battle, par exemple, ou à des spectacles, si on veut chanter, si on veut danser, etc.
Il faut s'inscrire
ouais.
Sur un lien qui est un lien Wiz Event qui est sur tous nos réseaux, partout où vous pouvez juste taper sur Google UBN ouais. Festival et pour pouvoir vous inscrire, il faudra rentrer vos informations. Alors je précise que pour le battle de danse, mm-hmm. il faut forcément être étudiant pour pouvoir danser.
Ok.
Donc ça, c'est l'événement où il faut être étudiant pour pouvoir monter sur scène.
Mm-hmm.
Mais pour l'open mic, il y a deux catégories. La catégorie étudiante,
ouais.
Où les étudiants viennent avec un son, ils viennent avec leur clé USB, ils montent sur scène et ils peuvent gagner un accompagnement par des professionnels de la musique pendant
carrément.
Un an.
Incroyable.
Mais on a aussi l'open mic freestyle ouvert à tous.
Ouais.
Donc pas besoin d'être étudiant forcément. Et on vient, on choisit le style de musique qu'on veut, le style de prod, si on préfère de la boom bap, de la trap ou de la drill.
Ouais.
Et on pose dessus.
Ouais.
Et pareil, il y a un jury caché dans la salle.
Caché.
Il est caché dans la salle, le jury, mais il vous voit.
Ouais.
Et qui sélectionnera à la fin, qui donnera son verdict de à qui ils offrent ce un an d'accompagnement.
Okay. Et il y a tout le temps genre une seule personne qui le remporte ou il peut y avoir plusieurs personnes?
Plusieurs personnes. Alors
okay.
du coup, on a toujours minimum 3 gagnants.
Ok, ouais.
3 gagnants, c'est le minimum parce que parfois, les jurys n'arrivent pas à les partager. Donc
ouais.
on a déjà eu 4, mais normalement, c'est 3.
Ok, carrément. Et pour la battle de danse, du coup, qu'est-ce qu'on peut remporter si on la remporte?
Alors pour le battle de danse,
si t'as le droit
peut...
de le dire d'ailleurs.
J'ai le droit. On part à Taïwan. Alors Taïwan qui nous accueille, en fait, on part représenter la France
ouais.
dans une autre compétition de danse là-bas à Taïwan
okay.
contre des étudiants taïwanais et des étudiants de d'autres pays parce que c'est une World Cup.
Okay.
Donc il y a surtout des pays asiatiques.
Mm-hmm.
Je
ne
sais pas si cette année il y aura un peu plus de pays occidentaux, mais il y a surtout des étudiants de pays asiatiques
ouais.
qui se rassemblent et nous qui représentons la France
incroyable.
Là-bas. Et à la dernière édition, les Français ont gagné.
Donc l'édition de l'année dernière.
L'édition de l'année dernière.
Et pour tirer sur le fil rouge, on gagne quoi si on gagne ce festival à Taïwan?
À Taïwan, bah, ils gagnent de l'argent.
Ok.
Ils gagnent de l'argent et le prix et la coupe et tout.
Et ouais,
ouais
trop cool.
C'est trop cool.
Bravo.
Et bravo aux Français.
Ouais, carrément.
Bravo à l'équipe française.
Donc voilà, en gros, donc le festival, vous pouvez tous et toutes y participer, c'est gratuit à 99%. Et vous pouvez gagner des accompagnements musicaux pendant un an et... ou un voyage à Taïwan. Pour terminer cette interview, j'ai une petite question, encore une fois, si tu peux nous le dire ailleurs. Mais j'ai vu qu'il y aura, à cette édition-là, un invité spécial.
Mmh.
Est-ce que tu peux nous dire, ou peut-être en 3 mots, nous amener pour savoir qui ça sera ou pas encore?
Pas encore,
okay.
Mais l'invité spécial ne vient pas de Paris, ne vient pas de France, ne vient pas d'Europe, vient d'ailleurs.
On ne peut pas avoir un continent?
Allez, on est en Asie quand même.
On est en Asie. Ok, merci beaucoup. Sarahel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur te suivre sur les réseaux, suivre le festival sur les réseaux?
Voilà, sur tout ça.
Ouais.
Vraiment, n'hésitez pas à venir. On est une toute petite équipe d'étudiants ou d'alumni, juste de passionnés.
Ouais.
Et on espère que le projet vous parlera autant qu'il nous parle. Et URBN Festival, partout sur les réseaux sociaux. Et inscrivez-vous.
Incroyable. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Merci.
Oui, merci Sarah d'avoir répondu présent au micro de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Donc vous l'avez entendu, URBN Festival. Et merci Sofiane pour cet échange.
Merci.
Chers auditeurs, restez avec nous parce qu'on va finir l'émission avec la chronique humoristique de Gauthier. Mais avant, on écoute Naira avec Le Nord.
J'en fais des couleurs dans ma vie. Je me suis levé plus que tôt. Qu'est-ce que je fais là? À ton avis, j'ai rien à perdre. Tout t'a donné, j'arrive, personne ne m'attend. Ma bonne étoile ne cesse de briller. J'ai prié, prié pour avoir la patience. De ne pas suivre la tendance. Je suis le leader de la troupe. Ils se nourrissent de ta chair pour mieux cracher dans la soupe. Je me suis tué au charbon. Je m'en suis sorti avec des cloques. On m'a foutu sur le bûcher. J'ai allumé ma clope. Personne ne m'aime, c'est pas mes potes. Je crois que ça les réconforte. De penser qu'on a le même cœur. De penser qu'on se prend les mêmes portes. Me surpasser, je fais en sorte. Ça ne suffit pas pour être au top. Fuck les règles, je comprends.
finir par prendre des notes, je leur ai fait croire que j'étais l'élève. Des casseroles, je raye le plancher, la mâchoire est acérée. Tête de casseur, poing serré. Leurs bêtises sont avérées. Je verrai le bout du tunnel quand je reviendrai à la maison. Je me suis engagée pour les miens, je peux pas avorter la mission. Sourcils froncés, majeur en l'air. Je te parle français, c'est qu'un savoir-faire. Ils sont coincés, je ne sais pas me taire.
C'était donc le Nord de Naïra et vous êtes sur le 93.9 FM sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et donc on finit l'émission avec toi Gauthier et ta chronique humoristique.
Bonsoir, cette semaine c'est ma 37e chronique sur ces ondes et figurez-vous que le week-end dernier j'ai été à Londres et j'ai été voir une comédie musicale. Et oui, moi, j'ai été à Londres pour voir des comédies musicales. Enfin, une quoi. Enfin, mon portefeuille va m'en vouloir. Moi, je vais finir sur la paille. Bah, non, en fait, non, ça va. Enfin, je me suis pas trop ruiné cette fois. Enfin, si on omet le fait que j'ai payé une place de Rossard en trop et qu'elle était non remboursable. Non, ça va, en fait, je... Pardon, est-ce que vous pouvez couper la musique, s'il vous plaît? Je suis désolé, je sais pas ce qui m'arrive, là, je me sens pas bien. Je crois que je suis en manque, là, en fait, parce que les deux dernières fois que je suis parti à Londres, j'ai vu 6 comédies musicales à chaque fois. Là, j'en ai vu une seule, mais je suis passé devant plein théâtre, plein d'affiches, j'étais trop tenté, et je crois que les effets commencent à se faire sentir. Je chante sans faire exprès, je fais des mouvements de danse en rythme. I got my ticket for the... Stop. Non. Faut que je m'arrête. Oh la vache, j'ai... Oula, le sol est en train de bouger. J'ai l'impression que derrière moi, il y a des décors qui changent, que purée, ça va vraiment pas trop. J'ai la tête qui tourne. Je crois que je suis en train de voir des étoiles. Ah non, c'est le logo d'Hamilton. Non, bon, de l'eau. Purée, j'ai plus d'eau quand j'ai fait la cup song. Bon, je me calme. Hier, j'ai été voir ma mamia. Je pensais que ça aurait pu m'aider un petit peu, mais bon, la première étape, c'est de l'admettre. Bonsoir, je m'appelle Gauthier.
Bonsoir Gauthier.
Bonsoir Gauthier.
Allô.
Et je suis addict aux comédies musicales au théâtre. C'est quelque chose que j'ai depuis bientôt 3 ans, mais là, ça commence vraiment à prendre des proportions assez inquiétantes. Non seulement je chante un peu tout le temps, mais en plus de tout ça, je me suis mis en tête de faire moi-même de la comédie musicale. Je joue dans le spectacle Ticket to Hell, les 10 et 11 juin prochains à 20h, à la MP1 à Saint-Germain. La billetterie est en ligne. Hein, quoi? vous avez entendu ça? Moi j'ai rien entendu, hein. Mais si j'avais entendu quelque chose, ma réponse aurait sûrement été: prenez vos places pour cette revisite en chanson du mythe d'Orphée et Eurydice. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Oh, attendez, c'est marrant ça. Ah, ça va beaucoup mieux d'un coup. Oh là. Bon, bah, c'est dommage, on va devoir arrêter la chronique maintenant, parce qu'en fait j'ai plus rien à dire, hein, finalement. Purée, je vous jure, ça, j'ai même pas fait exprès. Tu, est-ce que tu confirmes, Justine, que ça n'était pas écrit dans mon texte?
Oui, c'est vrai, je confirme que Gauthier n'a pas fait exprès de chanter Salut à la manière d'une comédie musicale.
Voilà, merci, vous voyez, c'est officiel, c'est l'animatrice qui le dit. Merci de m'avoir écouté, salut.
Merci beaucoup Gauthier. Et sur cette note, nous finissons la matinale de 19h du jeudi 21 mars 2024. J'aimerais remercier donc tous les participants d'aujourd'hui. Virginie Sansoun pour la semaine de la presse et des médias, Sahel Vétral pour le URBN Festival et au sein de l'équipe de la matinale aujourd'hui, José-Louis Gibault et Sofiane Colli pour les interviews, Anne-Sophie et Gauthier pour les chroniques et Jeanne Thévenot à la réalisation ainsi que Lucas Corroy pour la coordination. Merci à toi aussi, très chère auditrice. C'était Justine à l'animation de la matinale de 19h. Bonne soirée à toutes et à tous. Oui, et tout de suite, on enchaîne avec la revue scientifique qui sera l'émission qui passera après cette matinale de 19h. Et de quoi on parlera alors pendant cette revue scientifique ?
Salut, à 20h, l'Happy Hour scientifique, restez branchés, on va parler des forêts avec notre invité Étienne Grésillon. À tout de suite.
Donc les forêts sur l'Happy Hour scientifique. On reste sur l'antenne, très chère auditrice, et pour la matinale de 19h, à lundi prochain.
Bisous.